Bah écoutez, je suis heureux de vous apporter ce message ce matin. Ce n'est jamais facile d'apporter un message. On s'interroge toujours sur le sujet à apporter, parce qu'après tout, les sujets ont été usés, et plus qu'usés. On renouvelle les sujets depuis des siècles maintenant d'évangélisation, de prédication. Jésus est venu il y a 2000 ans, alors on se demande ce qu'on va bien pouvoir apporter de plus. Avec tout ce qu'il peut y avoir comme disponible sur Internet, etc., les lectures. Alors, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, croyez-moi. Alors, le message de ce matin s'intitule « Aime-toi toi-même ». Aime-toi toi-même. Nous lisons dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le message d'amour est donc au cœur de l'évangile et de la révélation. On est d'accord. Et pourtant, je constate que le commandement de s'aimer soi-même n'apparaît pas en tant que tel dans la Bible. Est-ce que vous l'avez constaté comme moi ? Je ne le trouve pas. Hein. Il n'est pas explicitement manifesté. Alors j'ai effectué quelques recherches à ce sujet. Et il ressort clairement, sans vraiment de surprise de ma part en tout cas, que s'aimer soi-même ne soit pas vraiment un sujet en tant que tel dans la Bible. On pourrait même croire qu'il s'agisse d'un hors-sujet. Peut-être que je suis hors-sujet ce matin. Donc voici quelques extraits de ce que j'ai pu trouver à lire. Alors voilà, hein, c'est des choses... Alors, je vous lis, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je vous lis juste ce que j'ai trouvé. Il est légitime de s'aimer soi-même. Mais ce qui rend vraiment heureux, c'est d'aimer Dieu en priorité et de se soucier de faire du bien aux autres. Je suis d'accord. D'ailleurs, les connaissances actuelles confirment que l'on est plus heureux et en meilleure santé lorsque l'on suit ce sage conseil de la Bible dans 1 Corinthiens 10, 24. Que chacun continue à chercher non pas son avantage personnel, mais celui des autres. En Matthieu 16, 24, 25, on peut lire « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Vous voyez, ces versets n'incitent pas vraiment à se tourner vers soi-même. Dans cette logique de l'amour à soi-même. On parle plutôt du renoncement, de l'abnégation, etc., d'aimer les autres, ce qui est tout à fait vrai et biblique. Le problème de l'être humain, ce n'est toujours pas moi qui écris ceci. Le problème de l'être humain n'est pas tant qu'il ne s'aime pas assez, mais qu'il s'aime trop. Que sa vie tourne autour de lui avant de s'intéresser à Dieu et aux autres. La vie du disciple est une vie de renoncement à soi pour donner à Dieu la première place et pour aimer les autres. La question n'est pas d'apprendre à s'aimer plus, mais plutôt d'avoir une juste vision de notre identité en Christ. Nous devons cesser de nous concentrer sur nous-mêmes et nous soucier des autres, ainsi que l'exige la maturité chrétienne. Philippiens 2, 3, 4, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Donc voilà, je m'arrête là. Ça, c'est ce que j'ai pu lire. Bien entendu, je ne suis pas contre, je suis d'accord. Mais à chaque fois qu'on dit une chose et qu'on ne nuance pas, cela pose problème. Je pense que ce qui est important, c'est de nuancer dans la vie. Quoi qu'il arrive, il faut nuancer. Et il faut pouvoir... voir les différentes dimensions d'une question, d'une même question. Alors, qu'en est-il vraiment de l'amour de soi-même ? Est-ce ou non un sujet spirituel ? Est-ce ou non un sujet d'édification ? Ai-je tort ce matin d'avoir choisi de vous en parler avec l'intention de démontrer que l'amour de soi-même n'est non seulement pas hors sujet, mais nécessaire pour honorer Dieu dans tous ses commandements ? Je voudrais déjà dire qu'il n'est pas question pour moi de faire un cours de psychologie de bas étage, ni de m'inscrire dans cette mouvance très appréciée de nos jours, qui consiste à passer son temps à faire du nombrilisme par tous les moyens. Donc, je vous rassure, c'est pas ça, le butin. Je tiens aussi à dire que si j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est qu'il est le résultat d'une réflexion ainsi que d'une expérience personnelle, mais aussi le résultat de nombreuses observations autour de moi dans les églises que j'ai pu fréquenter en 32 ans de conversion. Et je me suis dit, mais tiens, si on en parlait un tout petit peu. Et j'aimerais dire que certaines personnes ne se sentiront absolument pas concernées par ce que je vais dire. Tant mieux pour vous. Ça veut dire que vous marchez en plénitude, en grâce, en équilibre. Et c'est très bien pour vous, je m'en réjouis. Alors, cette réflexion s'adresse à ceux pour qui l'amour de soi-même peut poser problème. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles s'aimer soi-même n'est a priori pas un sujet ? J'aimerais commencer cette réflexion avec le verset bien connu de Jésus dans Marc 12, 31. Jésus dit, « Voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La plupart d'entre nous ne retenons généralement que la première partie de la phrase, c'est-à-dire « tu aimeras ton prochain ». Mais quant à la deuxième partie, elle passe bien souvent aux oubliettes. Plusieurs raisons sont susceptibles d'apporter une explication à ce phénomène d'éviction de la deuxième partie de ce verset, mais qu'il faut prendre en son intégralité. Alors, j'ai trouvé cinq raisons, mais il peut y en avoir d'autres, qui expliquent cela. Premièrement, l'amour de soi n'est pas un enseignement, je le répète, que la Bible évoque explicitement. Donc, si la Bible n'en parle pas explicitement, mais pourquoi diantre irions-nous le faire ? Deuxièmement, les enseignements donnés depuis des siècles aux générations successives de chrétiens, toutes dénominations confondues, évitent, volontairement ou non, ce sujet. Voilà. Je n'ai pas souvent entendu prêcher là-dessus. Troisièmement, la norme collective semble plutôt indiquer qu'il ne s'agit pas d'un sujet désirable, légitime, louable, puisque la priorité est celle qui consiste d'abord à s'exercer à l'amour du prochain, puisque de toute évidence, c'est le domaine dans lequel l'humanité enregistre le plus d'échecs. Quatrièmement, l'amour de soi reste un sujet tabou et dérangeant, puisqu'il renvoie à l'événement dramatique de la chute en Éden, vous vous souvenez ? Au péché d'orgueil d'Adam et Ève, il y a donc un risque de s'aventurer sur un tel terrain. S'aimer soi-même, attention, pourriez pécher, pourriez tomber, faites attention. Donc, pas simple hein, de parler de ce sujet. Dernier argument pouvant expliquer, susceptible d'expliquer la peur d'évoquer ce sujet, c'est parce que aimer soi-même, après tout, s'aimer soi-même semble aller de soi. Et la lecture du verset semble nous conforter dans cette pensée. Vous voyez ? Aime ton prochain comme toi-même. Mais tu t'aimes toi-même, bien sûr. Aime ton prochain comme toi-même. Ça va de soi que tu t'aimes toi-même. Bon, il n'y a pas de sujet. Pas besoin d'aller plus loin, puisque tu t'aimes. Puisque vous vous aimez. Tout va bien. Et pourtant, il me semble que s'aimer soi-même ne va pas de soi. Si l'on s'en tient à une lecture superficielle de ce verset, donc, il semblerait que s'aimer soi-même relèverait de l'évidence même. S'aimer soi-même semble être une chose parfaitement acquise pour tout individu, un fait universel, indéniable, une disposition psychologique minimale dont tout individu serait doté. Or, il n'en est rien. Certains chrétiens ne se donnent en effet pas le droit de s'aimer, ou de s'accorder de la valeur, ou de se reconnaître des qualités. D'ailleurs, ça me surprend toujours. Quand on dit merci à quelqu'un pour un bien qu'il nous a fait, « Ah non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Non mais je veux te remercier. Non. Là, c'est grande gloire à Dieu, mon frère. Ouais, » Sauf qu'on oublie que la personne qui t'a fait du bien, elle s'est associée à Dieu dans une unité, dans une alliance, pour te faire le bien. C'est ensemble que Dieu et cette personne t'a fait du bien. Donc, il est légitime, lorsque tu remercies, que tu remercies les deux. Donc, il ne faut pas dire « non ». Donc, certains croient s'aimer, mais s'aiment de la mauvaise manière. de façon animale, c'est-à-dire égoïste, narcissique, ou de façon dure et violente. Et d'autres ne peuvent même pas répondre à la question de savoir s'ils s'aiment ou non. Ils ne savent pas. Ouais. Peut-être un peu, pas du tout, passionnément à la folie, on ne sait pas trop, vous voyez. Donc s'aimer soi-même ne semble pas aller de soi, contrairement à ce que le verset pourrait laisser croire. Et encore une fois, quand on lit un verset, si on le lit de façon superficielle, ben, on intériorise des choses qui peuvent nous conduire à des erreurs. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question pour faire un peu d'humour. Si chacun de nous se mettait en tête d'aimer son prochain comme il s'aime soi-même, disons, ça pourrait faire peur. Si je mettais à vous aimer comme je m'aime moi-même, voyons, ça dépend comment je m'aime alors. Et on pourrait avoir beaucoup de souffrance dans l'Église. D'ailleurs, je vous avouerai que c'est ce que j'ai constaté. C'est peut-être parce que beaucoup de gens s'aiment soi-même, aiment les autres, comme ils s'aiment soi-même, que ça pose souci, justement. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas s'aimer soi-même au premier degré, et aimer les autres comme on s'aime soi-même au premier degré. Peut-être que s'aimer soi-même veut dire autre chose. Donc j'insiste, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. Donc, vous voyez, aimer les autres n'est pas facile. Si déjà le point de départ n'est pas une évidence. Nous devons donc ne pas aimer, je me permets de le dire, je ne vais pas contredire la Bible, mais c'est juste, je voudrais qu'on fasse une lecture au second degré, parce que la Bible se complète, là c'est inversé, pas l'isolé. Donc nous ne devons pas aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Comme ça, littéralement. Ça ne peut pas fonctionner. C'est donc autrement qu'il faut nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer correctement le prochain et faire la volonté de Dieu. Il faudra donc s'interroger sur le pourquoi s'aimer soi-même et le comment s'aimer soi-même. S'aimer soi-même est donc un sujet légitime, à mon sens, et à aborder ici dans le cadre de cette exhortation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous voulez continuer. Alors, la nécessité de s'aimer soi-même pour vivre l'Évangile. Je vous pose la question. Comment comprendre l'injonction, c'est-à-dire la demande, l'ordre de Dieu, au sujet de l'amour à manifester au prochain, si l'on ne comprend pas l'importance de l'amour pour soi-même? Si l'on ne s'estime pas soi-même digne de l'amour de soi? Si l'on ne considère pas si l'on ne se considère pas soi comme un sujet d'amour absolument légitime. Comment envisager de vivre pleinement l'évangile de l'amour si l'on ne parvient pas à s'appliquer cet amour divin à soi-même, à le vivre sainement, de façon équilibrée et spirituelle? Nous avons vu que c'est la première partie du verset dans Marc 12, 31, donc, voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est cette deuxième partie du verset, pardon, c'est cette première partie du verset que la plupart d'entre nous retenions. Donc, tu aimeras ton prochain. Or, s'aimer soi-même et aimer son prochain sont, à mon sens, deux ordres divins qui sont indissociables. On ne peut pas les séparer, vous voyez. On a toujours tendance à vouloir séparer les choses, vous savez, c'est l'esprit. Je ne sais pas comment on peut appeler cet esprit. On veut compartimenter les choses comme si on ne pouvait pas les unir entre elles. C'est une erreur. Ces deux versets ne peuvent pas être déliés l'un de l'autre. Tout en étant distincts l'un de l'autre, ces deux segments de phrases sont dépendants l'un de l'autre. Le « tu aimeras ton prochain » apparaissant comme subordonné à « comme toi-même » ou « comme toi-même ». D'ailleurs, le « comme toi-même » semble être le référentiel de la seconde partie du verset. Le « comme toi-même » apparaît comme étant la condition de la réalisation du « tu aimeras ton prochain ». On pourra au moins supposer que le « tu aimeras ton prochain » doit être considéré et interprété comme devant être vécu simultanément au « comme toi-même ». Donc vous voyez, on peut tourner autour de la question autant qu'on veut. Soit c'est d'abord « tu t'aimes » pour ensuite aimer ton prochain, Ou soit, si on veut être vraiment très prudent, ben, fais les deux en même temps. Mais de toute façon, on ne peut pas les dissocier. C'est comme ça, il me semble. Donc, ceci revient à dire que ces propositions, donc ces morceaux de versets, aucun de ces segments de versets ne doit s'effacer au profit de l'autre, ne doit être occulté au détriment de l'autre. S'aimer soi-même et aimer son prochain apparaissent comme deux dispositions de cœur, comme deux grandes orientations de la volonté de Dieu qui vont absolument de pair. Il n'y a pas à mépriser là, au détriment de l'autre. C'est pas spirituel pour moi, ça. Nous lisons dans 1 Jean 4,20. Là, je vais vous provoquer un peu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Alors, vous êtes très intelligent. Vous imaginez ce que je vais dire maintenant. Ok, allons-y. Et moi, je vous demande, là, c'est moi qui parle. Si quelqu'un prétend aimer son prochain et qu'il ne s'aime pas lui-même, c'est un menteur, ou il se trompe lui-même. Car celui ou celle qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il aimer son prochain qui est une autre chair que lui ? Et comment peut-il par la suite prétendre aimer Dieu qui n'est pas de chair et donc qu'il ne voit pas ? J'essaie de rentrer dans la logique biblique et de poursuivre. Ne pas chercher à s'aimer soi-même me semble être un échec dans la vie d'un enfant de Dieu, une impasse, une voie sans issue. Il s'agirait d'une forme de violence envers soi-même. Cela consisterait en quelque sorte à demeurer étranger à soi-même, à passer à côté de sa propre existence, à se nier, voire à se nier soi-même pour certains, s'annuler soi-même, et donc pécher envers soi-même, contre Dieu. Et je ne pense pas que cela soit la pensée de Dieu. N'est-il pas écrit dans Marc 3,25 que si une maison est divisée contre elle-même, la maison c'est vous, hein, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Comment pouvez-vous subsister, tenir debout, prétendre poursuivre les œuvres de Dieu si vous êtes divisé ? C'est pas possible, là. Faut réfléchir à ça. Votre maison est-elle divisée et ordonnée ? Est-ce que votre maison est une seule, d'un seul tenant, intègre, intégrale, c'est pas plutôt intégrale ? Ne savez-vous pas que vous êtes créé à l'image de Dieu et que nous devons nous aimer à la façon de Dieu, mais pas à la façon des hommes ? Je ne suis pas en train de vous dire, regardez-vous vous-même, le nombril, c'est pas ça. Je vous dis de vous aimer à la façon de Dieu. Ne pas vouloir s'aimer soi-même, comme Dieu le veut, sous-entendu, reviendrait à se jeter dans une impasse, je l'ai dit. David, lorsqu'il s'écriait dans le psaume 139,14, s'écriait en ces mots, « Je te loue de ce que je suis, c'est une créature si merveilleuse. » David, il dit ça. Il était spirituel, David. « Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien, et mon âme le reconnaît bien. » En s'écriant ainsi, David n'honorait-il pas Dieu ? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y avait pas de fausse modestie dans David, hein. Il n'y avait pas d'hypocrisie envers lui-même. Il s'estimait une créature merveilleuse et il louait Dieu pour cela. Il s'aimait lui-même, il s'estimait lui-même, il le disait, il écrivait, il a osé le faire. Ça ne pose aucun problème. Il était donc un, la maison n'était pas divisée par rapport à ce point de vue-là, par rapport à cet aspect. S'aimer soi-même n'est-il pas honorer le Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a consolés ? Pour continuer, pour essayer de vous convaincre encore du bien fondé de s'aimer soi-même, je vous demande, Dieu ne s'aime-t-il pas lui-même ? Avez-vous déjà pensé que Dieu s'aimait lui-même ? Ensuite, pensez-vous que Dieu ait dû attendre l'étape de la création des êtres visibles et invisibles pour connaître le sentiment d'amour ? Vous pensez que Dieu a dû attendre de voir d'autres êtres que lui pour connaître l'amour ? Dieu est amour. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Comment Ne pourriez-vous pas vous appliquer vous-même à présent cet amour divin que vous avez reçu du Saint-Esprit ? Dans le verset 1 Corinthiens 13, 2, nous pouvons aussi lire « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Pensons-nous pouvoir être quelque chose si nous nous privons d'exercer l'amour envers nous-mêmes ? Ne pensez-vous pas, et là c'est un point il me semble que qui m'a été révélé, mais c'est simple, mais j'ai réussi à faire le lien, et j'ai compris que c'était simple finalement, l'amour envers soi-même, parce qu'en y pensant, j'ai découvert aussi des choses. Donc, ne pensez-vous pas que lorsque le Saint-Esprit vous communique l'amour, il vous revient, écoutez bien, non seulement d'en prendre une part pour vous-même, et de vous en faire don, puis d'en conserver une seconde part afin d'en faire bénéficier les autres. Donc vous voyez, Dieu te donne de l'amour, Dieu te donne de la consolation. Mais prends tout, et ensuite donne-toi à toi-même. Donne-toi à toi-même, sers-toi. Donne-toi et garde une part pour les autres. Mais si Dieu te donne pour te consoler, pour te guérir, et que tu ne prends pas, mais Dieu ne va pas le faire pour toi, ça. Hein. Dieu te donne, les mets sont sur la table, les bénédictions sont là, on est assis à la droite avec le Seigneur, mais prends pour toi-même. Sinon, Dieu ne va pas le faire pour toi, ça. Hein. Voilà pourquoi certaines personnes souffrent, parce qu'elles ne savent pas prendre la part qui leur revient, celle que Dieu a prévue pour elles. Elles ne la prennent pas. C'est comme ça. Vous êtes-vous souvent demandé comment vous faisiez le partage ? Un vase ne doit-il pas d'abord être rempli pour pouvoir déverser ensuite son contenu ? Comment est-ce que vous partagez ce que vous recevez ? Est-ce que vous êtes équitable ? Ensuite, toujours pour vous convaincre, on a vu que Dieu s'aimait lui-même et qu'il fallait savoir prendre, d'accord ? Et se réjouir comme Dieu était. Dieu est amour, il fallait qu'on soit amour nous-mêmes. Ensuite, comment être aimé de son prochain si l'on ne connaît pas l'amour envers soi-même ? Comment être aimé ? Ou comment accepter d'être aimé de son prochain ? Comment accepter si l'on ne connaît pas envers l'amour de soi, envers soi-même ? Beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes et restent malheureux en négligeant l'amour qu'ils se doivent pour aller premièrement chercher à aimer leur prochain. J'ose dire que ceci est une illusion et un chemin de souffrance. Si tu ne t'estimes pas toi-même digne d'amour, écoutez bien, si tu ne t'estimes pas toi-même digne d'amour, pour qui est donc l'amour qui vient du prochain ? Pour qui ? Pour qui il est ? Pour les murs ? Pour les pierres ? Dis-moi, si tu ne t'estimes pas digne, pour qui est l'amour ? C'est-à-dire, les autres, ils veulent aimer, mais pour qui ? Pour quelqu'un d'autre ? Lorsque ton prochain cherche à t'aimer, sais-tu accueillir et honorer cet amour pleinement, comme venant de l'unité formée par Dieu et ton prochain ? Quand Dieu vient vers toi en t'aimant, quand ton prochain vient vers toi, c'est Dieu et lui qui viennent vers toi. C'est une unité. C'est l'épouse et l'époux, vous voyez, c'est ensemble. Sais-tu accueillir ? Sais-tu recevoir ce don sans fausse modestie, sans gêne ni protocole ? Sais-tu accueillir l'amour venant du prochain ? Sais-tu en saisir les fruits ? Comment pourrais-tu répondre ? Alors, moi, je vous pose la question. Comment pourrais-tu répondre, ou comment pourriez-vous répondre convenablement à une intention qui vous est destinée si vous ne la comprenez pas ou vous ne la comprenez pas bien ? Si vous ne la justifiez pas, vous ne vous la justifiez pas bien. Si vous ne vous la représentez pas, cette intention, ou vous ne vous la représentez pas bien. Si vous ne la trouvez pas forcément légitime en ce qui vous concerne, vous, comment l'accepteriez-vous ? Il est écrit dans 1 Pierre 4,10 « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. « Imaginez à présent que chacun ayant reçu un don spirituel veuille en faire profiter son prochain, mais que chacun refuse de recevoir, mais ne veuille que donner. » On serait là, tous, en rang, à vouloir donner, il n'y aurait personne pour recevoir. Mais on n'applique pas ce que Dieu dit. que chacun ici, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire qu'il y a des donneurs, il y a des receveurs. Puis une fois que vous avez reçu, vous pouvez donner. Ce n'est pas toujours dans le même sens. Mais pour recevoir, vous voyez, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Mais pour recevoir, il faut s'aimer soi-même, comme Dieu t'a aimé, comme Dieu veut que tu t'aimes. Ce serait donc une situation absurde qu'il n'y ait que des donneurs, un non-sens, un échec. Pour accepter un don, il faut s'estimer digne de le recevoir. Et pour cela, il faut s'aimer soi-même selon la pensée de Dieu. Et là, il me semble avoir trouvé un verset qui illustre bien ce péché qu'est de refuser, de prendre, de refuser, de dire « mais oui, je suis digne », et donc de s'aimer soi-même. D'ailleurs, Pierre, qui était dans l'état d'esprit contraire à ce que je viens de dire, a vite compris ce que Jésus lui demandait de corriger. On lit dans Jean 13, 8, Pierre dit « non, jamais tu ne me laveras les pieds, Seigneur oui. ». Pierre disait « non, non, tu ne me laveras pas les pieds ». Jésus lui répondit « si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi ». On ne s'attendait pas à cette réponse de la part de Jésus. Comment être aimé de lui si l'on ne reconnaît pas l'amour envers soi-même ? Comment être aimé des autres, de Dieu, si l'on ne reconnaît pas l'amour envers soi-même ? Si l'on n'accepte pas de dire « oui, je m'aime, j'accepte qu'on les autres m'aiment », ça commence par soi. Pierre, lui, voulait faire le malin, mais Dieu lui a dit « fais attention, hein, si tu n'acceptes pas, si tu ne penses pas être digne, si tu ne penses pas être aimable, tu ne veux pas rentrer dans cette logique ?» Ben non, tu n'as rien à faire. Pourquoi je vais mourir pour toi ? Mourir pour toi, pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on meure pour lui ? Qui ne pense pas être digne qu'on meure pour lui ? Qu'on donne sa vie pour lui ? Il faut s'estimer donc digne. Digne parce que Dieu le veut. Ce n'est pas parce que nous le voulons, attention. C'est parce que Dieu le veut. Dieu nous estime digne. J'aimerais dire une chose. Dieu vous a aimé quand vous étiez pécheur. Mais Dieu vous aime maintenant, vous n'êtes plus dans le péché. Dieu nous aime avant de nous sauver. On n'a rien fait pour ça, hein. Mais il nous aime après, mais il nous a aimé avant aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc il nous a trouvés dignes. Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé nos péchés dignes. Attention, attention. Je sais que quand on prêche sur ce genre de sujet, il y a pas mal de réflexions qui traversent l'esprit des uns et des autres. Ça peut être une pente glissante, tout ça. Vous voyez, il faut faire attention. Je suis prudent. Alors, ça veut dire quoi donc s'aimer soi-même, qu'est-ce que ce n'est pas alors ? C'est bien beau de parler de ça, mais qu'est-ce que ce n'est pas s'aimer soi-même ? S'aimer soi-même, ce n'est pas se préférer aux autres. S'aimer soi-même ne vient pas à se servir le premier, de s'écouter soi-même plutôt que de prêter attention aux autres. S'aimer soi-même ne consiste pas en une démarche égoïste, susceptible de léser les autres, de leur porter préjudice directement ou indirectement, on est d'accord. S'aimer soi-même ne consiste pas non plus à s'aimer plus qu'on aimerait le prochain lui-même. Ce n'est pas ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même ne consiste pas à se suffire à soi-même, à se sentir supérieur aux autres, à rester indifférent ou insensible au cas des autres. Ça ne conduit pas à se retirer de la présence des autres, à dire « bon, moi, j'ai besoin de personne », à chercher sa propre voie sans considérer le destin des autres. Ce n'est pas ça, s'aimer soi-même. J'insiste là-dessus parce que je sais que malheureusement, si on n'insiste pas, on va dire « ah, attention, qu'est-ce qu'il a prêché là, le jeune ?» Le petit jeune. S'aimer soi-même demande du courage et de la patience. On est dans le positif. On a vu ce que ce n'était pas. Maintenant, on va voir ce que ça veut. Essayez de voir ce que ça veut dire. L'amour envers soi-même est un apprentissage, il me semble, que l'on fait avec le Saint-Esprit. L'amour est en effet indissociable de la vérité. S'aimer soi-même est indissociable de la vérité, de la persévérance et du courage. S'aimer soi-même commence par accepter de se voir tel que l'on est et d'en tirer les conclusions nécessaires, des objectifs de repentance et de sanctification. Vous savez, ce verset du miroir, on doit se regarder dans ce miroir, dans un miroir, et ne pas repartir en ayant oublié l'image qu'on a vue. La Bible dit, il y a un verset qui va dans ce sens. Quand tu as vu quelque chose, enlève le petit grain, enlève le petit défaut qu'il y a, parce que le miroir t'a montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu ne repars pas sans l'enlever, ou en tout cas sans t'en préoccuper. S'aimer soi-même, c'est changer de perspective et comprendre sa véritable identité en Jésus. On change de perspective, on se met en Jésus et on comprend ce que ça veut dire, sa nouvelle identité. On peut au contraire passer sa vie à l'extérieur de soi, en s'investissant, voire en s'étourdissant, il y en a qui le font, dans de multiples œuvres, simplement parce que la vue du chantier qui est en nous, il y a un chantier, nous effraie, et que le fait d'affronter certaines blessures ou faiblesses nous rebute, nous blesse. Or, c'est un acte d'amour que de prendre du temps pour soi-même. C'est un acte d'amour envers soi-même. Si tu ne prends pas du temps, tu vas fuir de toi-même pour soi-disant aller aimer les autres, mais c'est une illusion. Tu vas te tromper parce que tu t'es fui. La fuite, c'est un péché. Il faut du courage. Il faut aller au fond pour la sanctification. Quel est l'homme fou ou la femme folle qui chercherait le salut d'autrui sans s'assurer, premièrement, de son propre salut ? Soyons honnêtes. Pensez-vous que le salut ne soit que celui de l'âme ? Ben non. Pour moi, le salut, c'est plus général que ça. Il consiste aussi en la sanctification. Vous savez, le salut, ce n'est pas que « le Seigneur m'a sauvé, j'irai au paradis ». Ce n'est pas ça. Le salut, c'est dans ta vie, est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu ? Est-ce que tu deviens à l'image de Jésus ? Ça, le salut. Le salut est rentré dans ta vie, comment ? Il se manifeste. Il faut qu'il soit actif. Ce n'est pas simplement un salut de l'âme. Ça ne s'arrête pas là, sinon ça serait caricatural. Et puis, pour moi, un échec. La vie, comment on appelle ça ? Le salut consiste en la sanctification. La vérité vous affranchira, a dit Jésus. Il est question de votre affranchissement et non pas uniquement de la préoccupation du salut des autres. Il faut être équilibré. Équilibré. En conclusion, et c'est une prière que je fais pour vous et que je fais pour moi-même. Alors écoutez, aimez-vous avec tendresse. Aimez-vous avec tendresse, avec la tendresse du Christ manifestée pour vous. C'est important de s'aimer avec tendresse. Écoutez, consolez-vous vous-même. Consolez-vous vous-même lorsque vous êtes triste, en prenant de ce que le Saint-Esprit vous a donné, afin de panser vos blessures et de réconforter votre âme. Faites-le vous-même. Le Seigneur vous donne, le Saint-Esprit vous donne. Prenez et pansez vos blessures vous-même. Relevez-vous. Faites ceci en adulte spirituel, avec simplicité et courage. Prenez le temps de vous fortifier vous-même avant d'aller vers votre prochain et puisez dans la réserve d'abondance du Père qui est dans les cieux tout ce dont vous avez besoin pour servir vos semblables. Acceptez de recevoir avec joie, puis de donner à votre tour, ou inversement, donnez à votre tour, donnez et acceptez de recevoir. La dépendance affective conduit à la souffrance. Je parle de l'amour envers soi-même. La dépendance affective, on a tous besoin d'être aimé. La dépendance affective conduit à la souffrance et cela traduit un état de non-autonomie. Quand on est dépendant affectivement, on n'est pas autonome. L'autonomie, ça ne veut pas dire l'égoïsme. Ça ne veut pas dire je suis indépendant des autres. Non, l'autonomie, ça veut dire la stabilité. Ça veut dire je sais qui je suis. Je suis à ma place. Je suis équilibré. Il ne me manque rien. Ce que je peux faire, c'est avec les autres, mais je suis complet. La dépendance donc affective conduit à la souffrance et traduit un état de non-autonomie. Si vous attendez, je ne vais pas vous faire plaisir en disant ça, si vous attendez du monde qu'il vous console, cela n'arrivera pas. Si vous attendez de vos conjoints qu'ils vous comprennent et qu'ils vous aiment comme vous le souhaiteriez, cela n'arrivera pas. Si vous pensez trouver en vos enfants une consolation à vos peines et à vos frustrations et à vos attentes affectives, cela prendra fin un jour. On peut se cacher derrière ça. Ça prendra fin un jour. Si vous pensez trouver dans les églises ou dans l'église des frères et sœurs qui vous comprennent toujours et qui vous aiment toujours selon le Seigneur, cela n'arrivera pas. Non. Enfin, pour terminer, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Mais il vous demande, c'est ce que je pense, il vous demande aussi d'apprendre à vous aimer vous-même et à vous consoler aussi vous-même avec son aide. Vous-même, comme des grands garçons, des grandes filles. Il vous demande d'apprendre à être autonome dans cette relation d'amour qui vous relie à Dieu et qui vous relie à vous-même et aux autres. C'est ainsi que vous serez victorieux dans l'amour.